tradition, la culture, l'endroit où on le vit, c'est partout pareil parce qu'on est des humains. C'est toujours de transformer ce qui a été utile pour la vie à un moment en quelque chose qui devient indispensable, même quand ça n'a plus de sens. L'apôtre Paul explique à la fin de la première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 13 sur l'amour, très connu. Il dit, lorsque j'étais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai laissé les choses de l'enfant. J'essaie pas aujourd'hui de faire porter à mes enfants qui ont 30 ans les chaussures qu'ils avaient quand ils avaient 3 ans. Or, souvent, on s'aperçoit que dans nos formes de vie communautaire, et honnêtement, j'en vise aucune parce que, en même temps, on ne peut pas vivre sans forme, on est sur Terre, hein, on est des humains. Et quelle qu'elle soit, même la recherche d'une absence de forme est une forme. Très exigeante, d'ailleurs, j'ai essayé. Mais on a toujours cette difficulté de vouloir cristalliser quelque chose qui a accueilli la vie à un moment et d'y associer la vie et de dire la vie, c'est ça. Hein. Et ce n'est pas nouveau quand on prend, j'ai cité Jacob ce matin, Jacob qui a sa vision et il se réveille et il dit, certainement l'Éternel était en ce lieu, moi je ne le savais pas, et il dresse une pierre et il dit, c'est là la maison de Dieu. Et on a envie de sourire, nous, aujourd'hui, et puis on se dit, mais je fais pareil. Hein? Je suis venu à la fois dans tel contexte, dans tel style, où j'ai reçu telle bénédiction, où j'ai vécu telle expérience spirituelle, et ce jour-là, j'étais habillé en bleu, et puis ben, le bleu, c'est la couleur de Dieu, ou ce jour-là, j'étais dans un bâtiment, il était comme ça, et c'est là que Dieu parle, ou ce jour-là, il y avait quelqu'un qui... Et on associe toujours la vie avec la forme qui l'accompagne. Alors, il faut savoir que, parce que, comme je l'ai dit, nous vivons dans le temps, dans l'espace, il y a des réalités matérielles auxquelles nous devons faire face. Hein. Lorsque les premiers croyants ont dû se rassembler dans la première église à Jérusalem, ils ont utilisé ce qu'ils avaient, le parvis, la cour du temple, et puis les maisons, ils n'avaient rien d'autre. Au fur et à mesure de la propagation de ces disciples qui ont essaimé un petit peu partout, il y a des groupes qui se sont constitués. On voit que Paul, à un moment, il utilise l'école d'un philosophe. Quand il faisait beau, il était sur la place publique. Des fois, il était au bord d'une rivière. Il essayait d'utiliser les synagogues. En général, il se faisait éjecter, lapider. Voilà, donc, parce que dans nos pays, il pleut, ou il neige, ou il fait chaud, ou il y a du vent. On doit se retrouver et au bout d'un moment, on se dit, mais on ne peut pas discuter ensemble tranquillement, il faudrait qu'on ait un truc sur la tête. Alors, on va dans une maison, au bout d'un moment, on est trop nombreux, on se dit, ben, et si on se faisait une maison plus grande exprès pour se retrouver? Ok, pas de souci. Et finalement, au bout de quelques siècles, la maison exprès pour se retrouver s'appelle l'église, ce qui est une impropriété grave. L'église n'est surtout pas un bâtiment. Hein. C'est les gens, les enfants de Dieu qui sont ensemble et qui se retrouvent et qui sont eux-mêmes connectés à Dieu et connectés les uns aux autres par l'intermédiaire, d'ailleurs, de l'Esprit de Dieu et aussi en direct. Et donc, si là aussi on oublie ce principe de base, que les formes doivent suivre la vie pour l'accompagner et pour lui donner les conditions idéales pour se développer. Ce qui veut dire que nos formes pourraient être ou devraient être en constante évolution et mutation, mais il faut aussi, bien sûr, éviter le piège, comme je l'ai dit, de se dire on va chercher un idéal où on n'aurait aucune forme. Et d'abord, c'est à peu près impossible, et puis c'est épuisant. Parce qu'on est toujours en train de tout remettre en question tout le temps et on ne s'en sort pas. Hein. Quand j'achetais des chaussures à mes enfants, même si je savais que dans 2 ans, ils n'allaient plus y rentrer dedans ou dans une année, j'espérais quand même que pendant une année, les chaussures feraient l'affaire. Donc, à nous d'adapter ça. Mais c'est la première chose qui est importante. Et on devrait pouvoir. J'ai un ami pasteur qui disait souvent ça. Alors là, il parlait de décoration, mais il disait quand j'arrive dans une pièce et que je vois quelque chose, un objet ou quoi que ce soit, je me dis toujours si c'était pas là, est-ce que je voudrais que ça y soit? Si je peux pas dire oui, je devrais l'enlever. Et moi, j'aime appliquer ce principe-là à la vie, aux formes de la vie communautaire. Est-ce que cette pratique-là, est-ce que cette façon de faire, est-ce que, alors que ça touche les locaux, les pratiques, les, mettez-y tout ce que vous voulez, chacun peut l'adapter, hein. Si ce n'était pas là, est-ce qu'on voudrait que ça y soit ? Toujours avec l'idée, est-ce que ça accompagne la vie ? Est-ce que ça protège la vie ? Et est-ce que ça donne à la vie l'espace pour se développer ? Hein ? Si mon plant de tomate a trop de lumière, je vais devoir construire un abri. Mais à une saison, à un moment et dans cette situation. Mais s'il est planté à un endroit où il y a l'ombre d'un arbre ou l'ombre d'une maison, je n'ai pas besoin de lui faire un abri. Et à un moment, peut-être qu'il faudra enlever l'abri parce que la saison a changé et puis il faut plus de lumière et il n'y en a pas assez. Donc, sans être dans une recherche tout le temps de pas être prisonnier des formes, non, on a besoin de formes, mais on devrait quand même régulièrement se poser des questions en se disant « Ok, on fait ça parce qu'on a toujours fait ça, mais... pourquoi ? » Et c'est là où ça nous amène à ce que j'appelais l'origine des mythes et légendes chrétiennes. Je dis ça avec humour, hein, ce n'est pas méchant. C'est qu'il y a des choses qu'on nous a apprises souvent, et puis c'est comme ça. Alors, soit on les fait sans réfléchir, soit au bout d'un moment, on se dit « Pourquoi il faut faire ça ? Ça n'a pas de sens !» et on ne le fait pas. Et je pense que les deux attitudes ne sont pas forcément très bonnes. On devrait toujours se demander pourquoi on fait ce qu'on fait. Si, en revenant, bon, je fais référence, sans le reciter, à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, donc j'ai compris, par exemple, que parmi les choses qui nourrissaient la vie de Dieu en moi, il y a le fait de me retrouver avec d'autres croyants. Donc, si je veux que la vie de Dieu se développe en moi, je vais trouver une façon de m'organiser, enfin, on va trouver une façon de s'organiser pour qu'on puisse se retrouver. Et puis, dans des rythmes de vie où le dimanche est le seul jour où on ne travaille pas, au-delà de la symbolique, c'est le jour qui avait été... quand le calendrier est devenu le calendrier chrétien, c'était le jour de la résurrection, etc. Ce fameux jour du Seigneur qui était un jour chômé. Alors, puisque c'est le jour où personne travaille, on a décidé qu'on allait se retrouver ce jour-là. C'est plus simple, tout le monde, plus de gens sont libres. Et puis, parce qu'il peut pleuvoir ou qu'il fait trop chaud, on va avoir un bâtiment. Et puis, on se retrouve quelques siècles plus tard avec aller à l'église, ce qui est aussi quelque chose c'est une phrase qu'on n'aurait pas prononcée. Hein. Elle n'est pas belle, on ne peut pas aller à l'église, nous sommes l'église et nous vivons l'église là ou ailleurs, mais aller à l'église veut dire pour les gens, le dimanche matin, aller dans un bâtiment particulier pour assister à un programme qui en général est assez formaté, toujours le même, même s'il est différent d'un endroit à l'autre, mais c'est toujours un peu pareil. Et puis, il faut aller à l'église. Où il faut aller au culte. Et d'ailleurs, quand on parle avec des gens qui, justement, ne fréquentent pas les églises ou ne sont pas croyants, ils disent « Ah, mais moi, je ne vais pas à l'église. » Si on commence à parler de foi ou de spiritualité, « Moi, je ne suis pas pratiquant. » Ouais, je ne vous ai pas parlé de ça, mais bon, c'est l'image qui vient, mais il y a une raison, c'est que, là, je reprends ce que j'ai vu au tout début, hein, il y a l'éthique, les valeurs chrétiennes, le comportement, etc. Et ce qui définit un chrétien, c'est quelqu'un qui a une Bible sous le bras et qui va à l'église le dimanche matin dans un bâtiment particulier à 9h30 ou 10h où il y a un programme qui ressemble à ça. Maintenant, est-ce que faire ça, c'est une mauvaise chose ? Non. Mais je dois comprendre pourquoi je le fais. On se retrouve le dimanche matin. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple que le mardi matin, parce que la plupart des gens travaillent le mardi matin. On se retrouve dans ce bâtiment parce que ce n'est pas facile de se retrouver dehors, mais on pourrait le faire. Mais quel est le but ? J'y vais pour faire plaisir à Dieu ? J'ai renoncé à ma grasse matinée ? J'ai renoncé à mon brunch ? J'ai renoncé à aller skier ? J'ai renoncé à quoi que ce soit ? Et je fais le sacrifice d'aller à l'église. Écouter quelqu'un qui répond à des questions que personne ne se pose, donner un peu de sous dans un panier parce qu'il faut payer le chauffage et payer le bonhomme qui répond aux questions que personne ne se pose. Et puis, je vais rentrer. Et enfin, je vais être libre le dimanche après-midi, conscience tranquille, j'étais à l'église ce matin. C'est clair qu'aller à l'église comme ça, il faut oublier. Hein. Il vaut mieux rester chez soi, faire le brunch, aller à la pêche et louer Dieu pour les poissons. Mais en même temps, la Bible dit qu'on a besoin de se retrouver les uns les autres. Alors, si ce n'est pas le dimanche matin, ça peut être le dimanche soir, le jeudi soir, le vendredi après-midi, le mercredi à minuit, on s'en moque. Si ce n'est pas dans un bâtiment et que le temps le permet, ou si on n'a pas peur de la pluie ou du froid, ça peut être ailleurs. Mais on a besoin de se retrouver. Alors, on doit se retrouver, ben, à nous de décider, en tant qu'enfant de Dieu, où, quand, comment, mais on a besoin de se retrouver. Et donc, il est utile d'avoir une réflexion, à mon humble et petit avis, pour la vie communautaire, la réflexion qu'on a entrepris pour nous dans notre communauté ici. J'ai pris l'image d'une voiture et je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'une voiture est une voiture ou qu'une voiture n'est plus une voiture ? Si une voiture n'a pas de toit, est-ce que ça peut être une voiture ? Oui. Parce que dans un pays où il ne fait pas trop chaud et où il ne pleut pas, il pourrait ne pas y avoir de toit. Si une voiture n'a pas de roue, est-ce que c'est une voiture ? Non, enfin, elle peut avoir des chenilles. Mais enfin, si elle ne peut pas se déplacer, ce n'est plus une voiture. Okay. Est-ce qu'elle doit avoir un système de direction ? Oui. Est-ce qu'elle doit avoir un cendrier ? Ça dépend. Si vous fumez, c'est utile. Si vous ne fumez pas, non. Etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, en prenant ce que la Bible nous dit, la vie communautaire, ce qu'on appelle la vie d'église, hein, il y a certains éléments, s'ils n'y sont pas, ce n'est pas la vie communautaire du royaume de Dieu. Par exemple, j'ai cité le fait de se retrouver, c'est magnifique, Internet, ça nous permet de faire des choses comme ça, par Zoom, on ne pourrait pas vivre que de ça, on le fait en ce moment, c'est bien, mais j'espère que vous avez chacune et chacun au moins 3, 4, 5, 2 personnes avec qui vous pouvez vous voir en vrai, parler, prier, etc. Donc, le fait que les enfants de Dieu se retrouvent physiquement pour vivre des choses ensemble, c'est indispensable. Mais ce n'est pas obligé que ce soit le dimanche matin, ce n'est pas obligé dans un bâtiment, etc. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on devrait lire ou étudier la Bible ? Oui, c'est évident. Mais est-ce que ça doit être toujours avec un monsieur qui parle derrière un truc en bois comme ça, et puis les autres, ils sont assis, ils écoutent, ils disent rien. Je ne dis pas que c'est inutile, mais ce n'est pas forcément ni la seule ni la meilleure des choses. Il peut y avoir d'autres façons. Donc, on doit, si on le peut, réfléchir en se disant, en fait, qu'est-ce qui favorise la vie de Dieu en moi ? Qu'est-ce qui lui permet de se développer ? Et une fois que j'ai répondu à cette question, alors je vais passer à la question de comment on habille la vie, comment on la protège et comment on lui donne les éléments qui lui permettent de se développer. Moi, j'ai eu le privilège de venir à la fois jeune, mais dans un contexte un peu particulier, c'était un réveil dans le sud de la France, et j'ai vécu les 10 premières années de ma vie de croyant. On n'avait pas spécialement de forme parce qu'on n'avait pas de bâtiment, il n'y avait pas de responsable. Des gens étaient devenus chrétiens comme ça. Bon, c'était l'époque du mouvement des hippies, de ces choses-là. Hein. Notre théologie se résumait à « j'ai rencontré le Seigneur et toi, on en parlait à tout le monde. Les gens venaient dans la maison, chez mes parents, chez mes amis, chez mes voisins. Ils devenaient croyants, on les baptisait dans la baignoire, on se retrouvait. » Bon, on a vécu 7-8 ans comme ça. Puis au bout d'un moment, on est plus d'une centaine, il n'y a plus aucune maison qui résiste, même dans le sud de la France, des fois il pleut, les granges, c'est l'hiver, c'est trop froid, et on s'est dit, on va louer un bâtiment, puis là, la commune a dit, mais hey, vous êtes quoi ? Vous êtes une association ? Non, vous êtes quoi ? Une église ? Comment ça ? Il a fallu créer une association. Et au bout d'un moment, il faut habiller la vie parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Mais moi, j'ai gardé un souvenir merveilleux de ces 10 premières années où... c'était comme ça. Voilà, on ne se demandait pas, on n'allait pas à l'église, on vivait chacun dans nos maisons, mais on se voyait tous les jours, on n'avait pas de rendez-vous, on savait où on pouvait se trouver, on mangeait ensemble, on priait, on lisait la Bible, on chantait, on parlait à tout le monde, et puis en plus les gens devenaient croyants autour de nous. Je n'ai plus revécu ça par la suite, je l'ai cherché toute ma vie, mais c'était fini. Mais quand ça a continué, aujourd'hui, il y a une dizaine d'églises dans la région où j'étais qui sont issues de ce mouvement-là. Et ils ont tous un bâtiment, un programme, un horaire et des responsables avec des formes très différentes. Hein. Donc, on doit donner des vêtements à la vie. Mais c'est la vie qui est prioritaire. Et peu importe les formes, tant qu'elles handicapent pas la vie, c'est pas un souci. Et donc, il n'y a pas une forme qui est meilleure qu'une autre. C'est juste à un moment donné, dans une situation donnée, ben, cette forme-là, elle favorise la vie ou, au contraire, elle l'empêche de se développer. Et c'est intéressant de voir que la parole de Dieu, qui est très précise sur beaucoup de choses, nous donne absolument aucune indication sur à quoi ça doit ressembler. Enfin, pas aucune indication, hein, mais on a des indications, mais pas sur la fréquence, l'heure, le mode, la façon. On a un petit peu dans Corinthiens Paul qui répond, hein, et le modèle qui cite là n'est pas trop appliqué en général, hein. Mais en dehors de ça, justement, ça a été laissé libre. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas enfermer la vie dans un modèle qui... La vie est la vie, elle se développe comme elle se développe, et elle vient d'abord, et on l'habille après. Et c'est pour ça que je disais, souvent il faut rechercher derrière les choses qui ont l'air traditionnelles, il y a une origine qui est belle et qui est bonne, et on doit retrouver la raison et peut-être la rhabiller. Moi, j'ai quand même souvent entendu, même si je n'étais pas dans un milieu légaliste du tout, mais quand j'étais jeune, un chrétien doit commencer la journée en faisant son culte personnel. Puis c'était un truc, si un jour on ne le faisait pas, on pouvait se sentir coupable. Et j'ai rejeté cette chose-là jusqu'au moment où je l'ai re-adoptée, mais pour d'autres raisons. C'est que je me suis juste aperçu que si je ne prenais pas un moment le matin, je ne le trouvais pas toute la journée. Mais à d'autres périodes de ma vie, le moment, c'était le soir, c'était la nuit, c'était entre midi et deux. Mais voilà. Donc, qu'à un moment, une chose ait été utile, c'est super. Dès qu'on en fait une loi et on n'explique pas pourquoi, et puis les autres vont devoir l'appliquer, ça devient quelque chose qui va nous faire du tort parce qu'on le fait sans le comprendre. Du coup, on se sent un peu coupable si on ne le fait pas, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça peut être difficile de passer d'un fonctionnement à l'autre. Dans la communauté où je vis ici à Moutier, quand je trouve qu'ils sont un peu fous de m'avoir proposé de venir, mais lorsque je suis arrivé ici il y a 13 ou 14 ans, dimanche après dimanche, j'ai répété aux gens, et il y a des gens ici témoins pour dire que c'est vrai, vous savez, si vous venez pas parce que vous venez avec plaisir pour rencontrer Dieu, je vous encourage à ne pas venir et à rester chez vous. Et je dois dire que c'est une des rares fois où un pasteur est écouté. La participation au rassemblement du dimanche a diminué des deux tiers. Et on ne m'a pas viré, donc ça c'est quand même assez exceptionnel. Maintenant, moi ce que j'espérais et ce que j'attendais, et je ne peux pas dire que c'est réussi encore totalement, c'est qu'à un moment, chacun découvre que mais j'ai envie, j'ai besoin de me retrouver avec mes frères et sœurs, donc je vais y aller. Mais pas parce qu'il faut faire plaisir à Dieu, pas parce que je me sens coupable, pas parce que le pasteur me l'a dit, pas pour plein de mauvaises raisons. Mais voilà, pour moi, quand je sais que mes amis, ma famille spirituelle se retrouve quelque part, bon, si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais si je peux y aller, j'aime y être parce que je ne vois pas où je pourrais être d'autre qui me ferait plus plaisir. Après, des fois, il y a aussi une question de discipline, hein. Quand on a compris que c'était utile. Je ne dis pas que les choses qui sont bonnes, on a toujours envie de les faire. Mais on a compris que c'était utile, et là, on va se discipliner, mais pour une bonne raison. Pas pour faire plaisir à Dieu, pas pour qu'on dise que je suis un bon chrétien, pas pour je ne sais pas quoi, mais parce que je sais que lorsque je pratique ça, ma vie spirituelle va mieux. Hein. C'est un peu comme l'exercice. Il y a des gens qui aiment faire du sport pour faire du sport. J'en fais pas vraiment partie, mais je sais que quand j'en fais, je vais mieux, donc je me discipline pour en faire. Mais je le fais parce que quand je le fais, je vais mieux. C'est moi qui m'oblige, entre guillemets, à le faire, qui me discipline. Hein. Donc c'est pour ça que la discipline est importante, mais ça doit être un choix personnel et surtout parce qu'on a compris pourquoi on le fait. Donc on doit se poser ces questions-là. Et puis, l'autre chose, c'est on doit être cohérent avec ce qu'on veut et ce qu'on fait. Je m'explique. Je ne sais pas ce que vous vivez dans vos communautés, Mais la tendance, on va dire, générationnelle aujourd'hui, c'est que c'est très difficile de trouver des choses qui s'engagent de façon régulière pour faire des choses, que ce soit le dimanche, le mercredi, le jeudi, le mardi, hein. Quand on demande qui pourrait s'occuper de telles choses, les réponses qu'on entend en général sont je veux bien venir ponctuellement, mais je ne peux pas dire que je serai là une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, ou une fois tous les 3 mois, peu importe, mais comme ça, voilà, et m'engager à venir. Non, ben, si je suis libre ce jour-là, je serai là. OK, on a le droit de ça. Et puis, les personnes qui répondent de ça arrivent un dimanche matin. Et puis disent, ah, il n'y a pas de programme pour les enfants ce matin. Mais non, il n'y a pas de programme pour les enfants ce matin. Pourquoi? Ben parce que tout le monde a répondu comme toi, je viens ponctuellement quand j'ai envie. Il n'y a pas de souci. Dieu n'est pas fâché avec nous si on fait ça. On a le droit de le faire. Mais si je fais ça, c'est impossible d'organiser un programme pour les enfants tous les dimanches matin. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un programme pour les enfants? Est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important pour eux? Il faut répondre à cette question. Mais si je réponds oui et que j'aimerais que mes enfants aient ça, mais moi je ne veux pas être impliqué régulièrement dans un programme, il y a un souci. Moi j'aime considérer la vie communautaire comme un village dans un endroit, un lieu de vie à taille humaine, où les choses qui y sont doivent être là parce qu'il y en a besoin. Et si je veux qu'elles y soient, et que pour moi c'est important, alors, je dois d'une façon ou d'une autre y participer. C'est pas une obligation, c'est pas du légalisme. C'est juste de la cohérence avec ce que je veux. Hein. Si je suis dans un village et j'aime manger du pain frais, je peux pas dire, ouais, mais si je prends ma voiture et je fais 12 km et j'ai du pain congelé, il est moins cher. Mais je veux un boulanger dans le village. Non, pas de cohérent. Je veux un boulanger dans le village, je vais lui acheter le pain, je le paye un peu plus cher. Mais le boulanger peut vivre dans le village. Et on fait ça pour chaque chose. Et donc, dans nos vies communautaires, on doit se poser ces questions. Et à la fois, on peut pas, on n'a pas le droit, on ne doit pas imposer quoi que ce soit, mais on doit aussi mettre chacun devant ses responsabilités. Parce qu'un lieu de vie communautaire, c'est un lieu de vie. Donc, si on vit, souvent, j'ai l'habitude de dire ici, une communauté chrétienne, ce n'est pas comme une montagne. Une montagne, elle est là, vous partez en voyage 10 ans, vous revenez, elle est là, elle n'a pas bougé. La communauté des croyants, c'est à la fois très solide et très fragile. Elle est là parce qu'il y a des croyants qui décident de se retrouver, quelle que soit sa taille, sa forme et ses traditions, encore une fois. Hein. Mais si les gens ne se retrouvent plus, alors elle n'existe plus. Et c'est bien qu'elle n'existe plus. Parce que le pire, c'est quand il y a plus rien, et puis il faut juste entretenir une tradition et un bâtiment. Alors on est vraiment dans l'inutile. Hein. Il faut savoir laisser mourir les choses. Dans tout ce qui est vivant sur Terre naît, grandit et meurt. Donc à un moment, il faut accepter de mourir. Ce n'est pas un souci. L'Église de Christ disparaîtra pas. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc, nous, ce n'est pas notre job d'essayer de faire que l'Église disparaisse pas. Par contre, nous avons la responsabilité d'être des disciples, de faire des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui doit avoir une vie communautaire. Je ne parle pas de vivre tous dans la même maison, hein, mais je dis vie communautaire parce que quand on dit vie d'Église, on pense à beaucoup de choses des fois. Et pour cette vie-là, ben, comment on va s'organiser? Comment on va le vivre? C'est à nous de le décider, hein. C'est comme dans une famille ou dans un couple déjà, où tout est basé sur d'un commun accord. Hein, Paul dit, d'un commun accord décidé de... Alors, d'un commun accord, en tant qu'habitant de ce village-là, ce lieu de vie où on se retrouve en tant que croyant, on va se dire, ben, dans notre village, on voudrait avoir une école, une boulangerie, et puis un forgeron, et puis un jardinier. OK, alors on va se donner les moyens de l'avoir. Si à un moment tout le monde préfère déménager ailleurs, ben, ce village-là n'existe plus, c'est pas grave. Il existera ailleurs. On n'est pas là pour faire vivre une organisation, une dénomination, un nom. On est là pour un endroit où on peut permettre à la vie de Dieu de se développer et aussi accueillir de nouvelles vies parce que dans les choses qui sont indispensables, on a vu dans les cycles de la vie se reproduit toujours. Hein. Alors, chaque vie a son rythme, hein. Il y a des arbres qui donnent des fruits une fois dans leur vie. Il y en a qui en donnent 4 fois par an. Ni juger, ni comparer les résultats, ce n'est pas notre job. Mais par contre, la vie se reproduit et donc il faut que le lieu de vie des croyants puisse accueillir cette vie qui se renouvelle. Que ce soit un fruit ou 3 000, ce n'est pas important. Et s'adapter pour ça. Alors, on y est, hein? Voilà. J'arrive, si on veut avoir un moment pour les questions. Ouais, mais je veux avoir un petit moment aussi pour les retours. Donc voilà, c'était juste là, j'ai lancé surtout beaucoup de questions, encore une fois, sur ce thème-là. J'arrive au bout. Et je voudrais juste, en tout cas, terminer pas terminer, parce que c'est pas, on va pas terminer, mais on peut pas terminer ces sujets, je veux dire, mais laisser une idée forte, c'est que le sens de la vie, et là, je reprends sur toute la journée, c'est toujours la grâce et la vérité. Et la grâce et la vérité, j'aime dire, c'est comme les deux pièces d'une monnaie, les deux faces, pardon, d'une monnaie, d'une pièce de monnaie. Même si vous voyez à un moment qu'une ou l'autre, vous ne pouvez pas avoir l'une sans l'autre. La grâce sans la vérité, ce n'est pas la grâce, et la vérité sans la grâce, ce n'est pas la vérité. Et le sens de la vie, parce qu'il nous vient par Christ, est toujours avec cette association, pas 50-50, 100% la grâce et 100% la vérité, qui se tiennent côte à côte comme les deux faces d'une pièce. Et lorsqu'on hésite, c'est quelque chose qui va nous aider dans tous les domaines qu'on a vus, hein, la grâce et la vérité ensemble. Et puis après, ben, à nous d'explorer cette grande chasse au trésor que Dieu nous a confiée, nous a préparé plutôt, et puis de chacun de suivre, et à un moment, ben, on va retrouver d'autres compagnons qui suivent, et puis vivre là ou ailleurs, etc. Mais on va découvrir et apprécier la vie que Dieu nous donne.